cours du Bitcoin et actions stratégie en bourse. Le point bas est-il validé? Le point bas du cours du Bitcoin établi le 1er juillet dernier à $57 750 est-il le bottom final du marché baissier cyclique? Chers amis, je vous ai préparé un argumentaire d'anthologie, une présentation ultra structurée. Je vais tout reprendre un à un, chacun des arguments, chacune des illustrations, avec un plan bien précis que je vais vous annoncer dans un instant. En ce qui concerne les silences coupés, j'y suis allé un peu de manière moins brutale car effectivement, c'était devenu peut-être trop rapide et moins naturel. Là, j'ai fait un juste milieu. J'espère que vous serez satisfait dans la grande majorité. Tout d'abord, je vais démarrer par reprendre un peu. Souvenez-vous, ma présentation réalisée le 17 juin dernier à Lausanne, vous expliquant que cette année 2026 était le point de départ d'un positionnement asymétrique sur le cours du Bitcoin et des altcoins. En lien avec un certain nombre d'arguments fondamentaux, je vais rapidement, en introduction, rebondir sur cette présentation du 17 juin que j'avais complétée par une vidéo dans la playlist Top Gun au début du mois de juillet, vous expliquant qu'il s'agissait d'une opportunité de rentrée. Alors, certes, l'accélération du cours du Bitcoin a eu lieu depuis le mercredi 19 août, depuis ça retrace un peu, donc le 19 août, ce n'est pas la rentrée. Chers amis, je n'ai pas une boule de cristal au point de pouvoir être précis au jour près. Mais mon argumentaire a toujours été de dire que cette année voyait la fin du marché baissier cyclique et que parmi tous les actifs en bourse, c'était là où on pouvait trouver de l'asymétrie, être capable de faire du x3, x4, x5 à horizon 2-3 ans. Et oui, c'est ce que je vous confirme sur le cours du BTC, la cible du prochain cycle bullish, qui culminera quelque part entre 2028 et 2029, sera autour des $150 000 à $200 000. Nous n'y sommes pas, je n'annonce pas ce prix pour maintenant, et même si là d'ailleurs ça peut tout à fait retracer, je vais tout vous expliquer. Donc accrochez votre ceinture parce que ça va être ultra structuré. Donc, première partie, vraie après l'introduction, marché baissier terminé, donc pour le cours du Bitcoin, à $57 750 le mercredi 1er juillet dernier, c'était peut-être un mardi à vérifier, je passe en vue tous les arguments techniques, tous. J'ai tout mis dans une grille et je les prends un à un et j'illustre tout. Voilà. Franchement, alors, allez, je vais vous montrer 90% de mes arguments. Donc, j'ai quand même rassemblé beaucoup de choses. Deuxième partie, l'invalidation. Tout de suite, je vous donne les seuils d'invalidation. Parce que oui, il y a le scénario d'un énorme bull trap. Donc, je vais y venir. Mais après avoir présenté l'argumentaire technique bullish, les invalidations. Sous quel prix il faut pas repasser pour qu'en fait ce rebond depuis la mi-août n'ait été qu'un feu de paille et qu'en fait le vrai bottom arrive encore plus tard? Bon, je vous le dis tout de suite, moyenne mobile à 200 jours, $70 000. 68, 70. En dessous, c'est mort. Troisième partie, les risques majeurs de bull trap. J'ai trouvé des raisons fondamentales éventuelles pour un dernier choc, un dernier check-out. Pas garanti, mais de rentrer sur septembre, octobre, novembre. Rappelez-vous un peu à l'image de ce que fut la faillite d'FTX en novembre 2022, qui avait reporté de quelques mois le départ du bull run, qui a eu lieu ensuite sur 2023-2025. Bon, donc ces risques de bull trap, où en réalité nous serions toujours en marché baissier cyclique, et donc qu'il y aurait toujours un bottom à faire en dessous de $57 750, même si c'est devenu le scénario minoritaire, et des arguments fondamentaux et techniques donc pour ce risque de bull trap. Et je terminerai cinquième partie par les seuils techniques d'accélération de l'année 2027, car ça a été toujours mon argumentaire, toujours ma conviction, et ça l'est encore. 2027 sera grandiose pour le cours du Bitcoin et des altcoins. 2027, et je vais vous donner les seuils techniques qui, lorsqu'ils seront dépassés, feront passer le marché du stade de phase de bottomisation fin de bear à nouveau bull run, ce qui là n'est actuellement pas le cas. Nous sommes toujours dans la phase de automisation, présentation ultra construite, ultra riche, cours du Bitcoin et action stratégie. L'action stratégie, je vais en parler plus ou moins dans toutes les parties. Le bear market a-t-il trouvé son bottom à la fin, au début du mois de juillet dernier? C'est parti, on attaque. Nouvelle édition du Top Gun.
Cette émission vous est présentée par SwissQuote.
Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Allez, c'est parti. cours du Bitcoin et actions stratégie en bourse. Le bottom établi début juillet est-il le point bas final du bear market? Restez vraiment jusqu'au bout. Ne consommez pas, entre guillemets, uniquement la première partie qui montre les arguments techniques bullish. Restez pour la partie des risques. Restez pour la partie des seuils d'invalidation. Restez pour la partie des seuils d'accélération. C'est un ensemble. Ensuite, vous dormez bien et vous faites votre propre opinion et vous revenez dans les commentaires me dire, eh bien, du coup, quel camp vous choisissez. Donc c'est parti, nous attaquons. Oui, le camp entre ceux qui pensent que le bottom est fait et ceux qui disent que c'est un énorme, a big bull trap, a huge, my friend, a huge fellow citizens bull trap. Donc c'est parti, mon kiki. 17 juin, Swissquote Trading Day, BTC en opportunité asymétrique par ce monsieur, qui est aussi ici, Mr. Vincent Gain, qui, alors je vous refais pas, je vous épargne de repasser tous les slides, simplement pour vous rappeler que cette présentation est toujours disponible sur la chaîne YouTube et que vous pouvez la reprendre. C'est toujours sympathique de reprendre un argumentaire technique quelques mois avant et qui finalement s'est bien déroulé pour comprendre finalement qu'est-ce qui pouvait bien marcher, parce que les patterns techniques, les schémas fondamentaux peuvent se répéter. Donc ça c'était l'agenda, je sais pas pourquoi ce slide est là, c'est pas grave. Bitcoin 2026, l'année du point bas du bear market. C'était cette présentation que je vous ai proposée à Lausanne et qui partait déjà d'une démonstration simple. Je vous ai remis donc le fameux cycle de 4 ans. Le cycle de 4 ans, pourquoi? Car Bitcoin, c'est une monnaie électrique, c'est une monnaie numérique, et dans son code informatique, il est écrit que tous les 4 ans, vous divisez sa production par 2. Bitcoin, c'est une matière première, d'ailleurs, aux yeux du régulateur américain, une matière première numérique, une monnaie électrique, on peut appeler ça comme on veut. Et donc, c'est une matière première dont l'offre maximale est connue à l'avance, 21 millions d'unités, et dont la production est divisée par 2 tous les 4 ans. En même temps, en face de ça, la demande augmente. Donc c'est la base de cette tendance haussière de fond, ce décalage asymétrique entre l'offre et la demande. Et donc, comme cette production de Bitcoin est divisée par 2 tous les 4 ans, cela a créé donc ce fameux cycle de 4 ans, où depuis sa création, depuis sa cotation, depuis son échange sur les différents exchanges, Bitcoin voit 3 ans de tendance haussière, 1 an de bear market, plus ou moins 1 an, 3 ans de tendance haussière, 1 an de bear market. Et donc, selon cette logique, 2014 fut un bear market, 2018 fut un bear market, 2022 fut un bear market, 2026 fut un bear market, et c'est donc le creux de 2026 qu'il faut acheter pour bénéficier de 2027, 2028, 2029 aussi. Et donc forcément, lorsque l'on voit la reprise du cours du Bitcoin, qui depuis le 1er juillet dernier est assez massive, et que l'on voit des patterns techniques dont je vais vous parler, qui rappellent les fins des précédents bear markets, l'on se dit que, mamma mia, my god, ce schéma se répète, c'est incroyable, du coup j'ai une visibilité sur 3 ans. Est-ce que cela tient la route? Est-ce que cela est faux? Est-ce que cela est trop tôt? Parce que 2026 n'est pas terminé. Donc oui, 2026, c'est l'année du bottom. Mais est-ce crédible de l'avoir déjà inscrit? Bon. Donc c'est tout ça dont nous allons causer. Ce slide, je vous l'ai proposé le 17 juin à Lausanne City. Alors bien sûr, il y avait beaucoup d'arguments fondamentaux que je vous avais mis dans ma présentation, notamment l'institutionnalisation du BTC. Vous savez que déjà, il y a les ETF avec BlackRock notamment depuis 2024. Et que des banques américaines s'y mettent, Morgan Stanley s'est lancé, et que Goldman Sachs, Bank of America, JP Morgan, Citigroup arrivent, tout ça était un argumentaire d'institutionnalisation pour dire que justement, à partir de là, les bear markets sont de plus en plus courts, seront de moins en moins profonds, parce que ce marché est devenu un marché de professionnels, un marché où l'on trouve la haute finance. Ce slide aussi était disponible dans ma présentation du 17 juin dernier. Alors, je remonte la présentation du 17 juin dernier, non pas pour me gargariser, j'en ai rien à faire, c'est simplement pour remontrer quelques arguments fondamentaux, car là, je vais surtout dans cette présentation me concentrer sur des arguments techniques. Par contre, dans les risques, je vais à nouveau reparler des fondamentaux. Le Clarity Act arrive, va-t-il ou parier? Ça, c'est ce qui change tout. Le Clarity Act fait de la classe d'actifs des cryptos une classe d'actifs régulée et donc institutionnalisable. Et surtout, ce Clarity Act qui n'a pas encore été voté par le Sénat US, et ça, j'arrive, je vais vous donner dans cette vidéo les dates majeures. Parce qu'il y a des dates à haut risque 15 septembre, 16 septembre, 16 octobre, 15 septembre, 16 septembre, 16 octobre. Ces trois dates-là, vous allez découvrir plus tard dans la vidéo, dans la section des risques, pourquoi ça peut tout casser, tout chambouler et le ramener au sud, ou au contraire, le confirmer au nord. Le Clarity Act, qui change tout, qui fait que des milliards et des centaines de milliards de dollars peuvent arriver dans les cryptos ou pas. Encore faut-il que cette loi soit adoptée par le Sénat américain, elle l'a déjà été, enfin que ce texte devienne une loi. Et pour ça, il faut être voté par la Chambre des représentants, voté par le Sénat, c'est le cas par la Chambre des représentants, c'est pas encore le cas par le Sénat. Alors autant vous dire que si l'administration Trump perd les élections de mi-mandat, perd la Chambre, perd le Sénat, et que ce machin n'est pas voté, c'est là, ouh, ça peut être tendu. Nous verrons bien. En tout cas, donc, tout ça était proposé le 17 juin dernier. Alors, depuis, forcément, je vous ai fait un petit récap. Donc, alors, je vais être transparent, hein, je vous ai fait une vidéo début juillet vous expliquant Bitcoin, fenêtre d'opportunité à la rentrée. Et donc, soyons honnêtes, l'accélération a commencé le lundi 17 août. L'accélération a commencé le lundi 17 août. Oui, c'est pas la rentrée. Donc, moi, j'ai fait une vidéo en disant opportunité à la rentrée. J'ai eu tort. Mais en même temps, chers amis, si j'avais cette capacité à prédire à la fois les tendances et les timings à la perfection, je ne serais pas ici à faire des vidéos. Je serais sur mon île paradisiaque avec mon propre gouvernement, ma propre armée et mes millions de dollars. Donc, grosso modo, j'étais bullish. C'est une stratégie asymétrique. J'ai identifié la zone, la rentrée. Oui, c'est vrai que cette accélération, je l'attendais plutôt sur septembre-octobre et pas à partir du 17 août. Voilà. C'est comme ça. Mais alors, techniquement, il y avait des choses, mais peut-être pas d'un point de vue cyclique. En tout cas, j'y arrive parce que bon, tout ça va quand même dans le sens de la stratégie de fond. Voilà. Les points étant remis sur les i, l'église étant remise au centre du village, la mairie pour certains, peu importe. Marché baissier cyclique terminé, les arguments techniques. Et là, nous allons rentrer dans du lourd. Marché baissier cyclique terminé, les arguments techniques. Voilà tout ce que nous allons passer en revue. Il y en a 18. Donc, 18 arguments. Marché baissier cyclique, les arguments techniques. Et ben, c'est parti, on les prend un par un. Premier argument, la ligne de, des choses toutes simples. La ligne de tendance haussière graphique sur le graphique en données hebdomadaires. Et oui, le chartisme, c'est tout simple. C'est parfois les choses simples qui fonctionnent le mieux. Les signaux de chartisme sont les plus puissants sur les graphiques de moyen long terme, c'est-à-dire l'horizon de temps hebdomadaire et l'horizon de temps mensuel. Ce fut une ligne de tendance, un point, deux points, j'exige, je prolonge, qui attrapa le point haut de l'ancien bull run. Et ce fut à nouveau donc un point, deux points, j'existe, je double-clique et je prolonge, qui attrapa précisément début juillet la fin de ce que fut ici un bear market cyclique, comme le bear market cyclique de 2022, comme le bear market cyclique de 2018, comme le bear market cyclique de 2014. Vous avez compris, tous les 4 ans, ça baisse. Pendant 3 ans, ça monte, ça baisse, ça remonte pendant 3 ans. Et ce, jusqu'à ce que vous soyez à 4 générations après vous. Donc, ça va durer très longtemps. Ça, c'est pas certain, mais pour l'instant, c'est assez jeune. Ça peut donc encore un peu durer. Donc, la ligne de tendance a bien fonctionné, c'est quelque chose déjà de base. Divergence haussière hebdomadaire de momentum, rebond sur la moyenne mobile à 200 semaines, dépassement de l'EMA de 100 weekly. Répétant un schéma parfait déjà identifié dans le passé. Effectivement, la fin du bear market de 2022 avait été anticipée par une superbe divergence haussière prix momentum. Le momentum étant représenté ici par l'indicateur technique RSI. Oh, incroyable! La même divergence était en cours donc au début du mois de juillet lorsque le marché vint se présenter sur la ligne de tendance haussière et aussi sur la moyenne mobile à 200 semaines. Moyenne mobile à 200 semaines qui, à peu de choses près, représente la moyenne mobile à 4 ans, pas tout à fait, et c'est le cycle de 4 ans. Et historiquement, tous les bottoms de bear market étaient à peu de choses près ou un peu en dessous au contact de cette moyenne mobile à 4 ans. Donc, à la fois, il y avait la trendline, la divergence, la moyenne mobile à 200 semaines, des patterns retrouvés dans le passé. Je vous montre aussi l'EMA 200, c'est-à-dire qu'il s'agit là pas de la moyenne mobile arithmétique à 200 semaines, mais de la moyenne mobile exponentielle à 200 semaines. Tous les bear markets du passé consistaient à faire un range autour, à la dépasser, à repartir, un range autour à la dépasser, à repartir. Un range autour à la dépasser, à repartir. Oh, incroyable! un range autour, à la dépasser, à repartir, elle est franchie. Donc, les schémas se répètent et Bitcoin démontre la puissance de la répétition des schémas cycliques, en particulier sur cet actif, qui n'existe que parce qu'on l'a codé et dans son code, beaucoup de choses sont écrites. Et c'est assez exceptionnel d'avoir sa production divisée par deux tous les quatre ans, ça crée de la rareté. Et il y a quand même un des principes de base de l'augmentation des prix en bourse, c'est la scarcity, comme disent nos grands amis anglo-saxons, la rareté. Mais ce n'est pas que le seul argument, bien sûr. Donc ça, ce sont les arguments techniques de fin de bear market. Alors attention, moi je vais vous montrer d'autres mes hypothèses chartistes, et notamment je pense qu'il y aura un retracement de rentrée pour faire une grosse épaule-tête, épaule inversée, ça j'y viens, mais dans tous les cas, tous ces arguments-là, si vous voulez, sauf choc exceptionnel, nous disent que, eh bien, le bottom établi le 1er juillet dernier était donc le bottom du marché baissier cyclique. Je continue donc, j'en suis là. Alors, cinquième argument, analyse cyclique, second bear market le plus court de l'histoire et alignement avec le halving, la partie cyclique. Donc, si le bear market est vraiment terminé depuis le 1er juillet dernier, c'est le deuxième bear market le plus court, selon un critère. Il y a deux critères, la durée totale en nombre de jours. Le bear market de 2014 a duré 406 jours, celui de 2018 376, donc là ils ont duré le même jour, mais on voit que c'est décroissant finalement, là c'était dans les 400, là c'était dans les 300, là ce fut dans les 200, c'est normal, plus ça se mature, plus ça devient institutionnel, plus ça devient professionnel, moins c'est soumis au leverage des traders particuliers qui se font éclater, les phases de bear durent moins longtemps. Et donc 268 jours, c'est un peu court, sachant que on pouvait s'attendre à quelque chose d'au moins 300. C'est là où c'était quand même, c'est pourquoi moi, je privilégiais davantage un bottom à la rentrée et pas donc cette accélération en août. Mais bon, pour l'instant, c'est comme ça. Alors, lorsqu'on regarde la durée du bear market en commençant l'alignement des cycles depuis le halving précédent, eh bien là, le bottom aurait été établi 802 jours après l'ancien bear. Ça avait été plus court en 2014, plus long en 2018, plus long en 2022. Et c'est quelque chose que je vais vous montrer ici. L'alignement des cycles, non pas de jour 1 de bear market à fin de bear market, mais de jour 1 du halving au prochain halving. La base 100, chacun des cycles commence à 100 au niveau du halving. Et c'est 4 ans après qu'il y a le second halving. Donc le premier cycle avait fait son bottom 776 jours après le halving. Le deuxième, 889. Le troisième, 915. Et ben donc là, on l'a fait, donc 803, 804. Un peu après le premier, et assez nettement avant les deux intermédiaires. Mais ça tient quand même la route, puisque là, nous avions la grosse zone de bottomisation. À noter que le bottom du bear a été fait précisément sur le prix du halving, puisqu'on est revenu à la base 100. Voilà. Et que d'ailleurs, on voit à chaque fois que les bottoms de bear se font de plus en plus proches du halving. Donc là aussi, ça tient la route pour dire que le bear market cyclique s'est bien terminé le 1er juillet dernier. L'hypothèse chartiste de l'épaule tête-épaule inversée, dépassement de la Keystone Weekly, traversée de la Lagging Span Weekly, autant d'arguments qui sont aussi favorables à un bottom établi le 1er juillet dernier. Attention les amis, ne vous frottez pas les mains en vous disant c'est fait, j'ai une énorme partie sur l'invalidation et le bull trap, avec des arguments tout aussi costauds. Donc on va jusqu'au bout. Et donc effectivement, alors là, vous avez donc le système Ishimoku. Effectivement, donc les fins de bear market précédents étaient validées lorsque la lagging span traversait les bougies. La lagging span a traversé, la lagging span a traversé, la lagging span a traversé et le premier bear market, la lagging span a traversé. C'était donc la fin du bear, donc ça c'est pas dégueu. Dans les pré-signaux, il y avait le dépassement de la Keystone, le dépassement de la Keystone, le dépassement de la Keystone. Elle est dépassée, elle est à 70K. D'ailleurs, il y avait aussi dans les signaux le dépassement de la moyenne mobile à 200 jours. La moyenne mobile à 200 jours a toujours été, regardez, la fin de l'ancien bear market en 2022. Le dépassement de la moyenne mobile à 200 jours validait, elle est ici en bleu, la fin du bear market cyclique. Et ben là, elle a été dépassée précisément à la clôture du mercredi 19 août. Et désormais, elle est support, elle peut être retestée. Et je vous donne tout de suite le truc. Le seuil d'invalidation de ce scénario bullish, c'est 68-70K. Tant que Bitcoin se situe désormais au-dessus des 68 000-70 000 $, tant que Bitcoin se situe désormais au-dessus des 68 000-70 000 $, il est enfin, le bear market est terminé. J'ai une hypothèse. Alors regardez, le Kumo Weekly, c'est toujours ça qui permet de confirmer qu'on a terminé, c'est quand on entre à l'intérieur. Donc on n'est pas encore rentré, ça peut prendre du temps. Mais j'ai une hypothèse un peu de compression ici entre la trendline et le Kumo, et pourquoi pas une structure en épaule-tête-épaule inversée. et où en 2027, on serait capable de rentrer dedans et d'accélérer. La ligne de coût est à 82 800. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant de noter, c'est que si là, on a une épaule-tête, épaule inversée, eh bien ici, le pic de la tête, là, vous avez les graphiques weekly, là, c'est daily, donc vous la reconnaissez ici, là, épaule-tête, épaule inversée, donc épaule-tête, épaule inversée, puisque là, le daily décompose le weekly, et on voit que le pic de la tête était elle-même aussi une épaule-tête, épaule inversée. Il y a un fractal, il y a une imbrication, c'est pas dégueu. Voilà. Donc, tout ça milite aussi. Alors voilà, attention, moi, je pense qu'on aura cette jambe de retracement, là, sur septembre-octobre, donc il faut suivre ça, mais dans tous les cas, ça, c'est une hypothèse de pattern. Ah bien. C'est une hypothèse, je trouve que ça tient bien la route. On verra bien. On verra bien. Donc voilà, donc la divergence, je vous l'ai montré, la divergence weekly qui est incroyable, qui est validée d'ailleurs, hein, parce que sa validation s'est dépassée le niveau des 50 et ça, donc on valide exactement comme la fin d'Uber en 2019, en 2022 et en 2026. Ensuite, les prises de perte SOPR et le pourcentage de l'offre en profit sont aussi favorables à la fin d'Uber validée le 1er juillet dernier. Avec, donc ça c'est immobilier exponentiel, donc ça je vous l'ai déjà montré, les prises de pertes Bitcoin SOPR, effectivement, on avait depuis le début du mois de juillet des prises de pertes à peu près équivalentes à ce que furent les prises de pertes après la faillite d'FTX, donc on avait ces prises de pertes, c'est souvent et dans la phase de bottomisation, donc c'était favorable à ce que ce soit l'accumulation pour repartir, et puis aussi lorsque vous regardez, eh bien, le bottom du 1er juillet a été fait, il y avait seulement 45% des détenteurs de Bitcoin en profit. Le 1er juillet, il y avait seulement 45% des détenteurs de Bitcoin en profit. Ce fut exactement le même niveau que novembre 2022. Et oh, incroyable, en novembre 2022, nous étions, c'était le bottom. Donc ici et ici, le même pourcentage de l'offre qui était en profit. Tout ça aussi participe à l'argumentaire. La divergence sur le pourcentage par rapport au drawdown, le rapport terminal price CVDD, la loi de puissance, les modèles quantiles, le Bitcoin ajusté de l'inflation, le coût de production par Bitcoin, les ratios Bitcoin S&P 500, Bitcoin Gold, Bitcoin Silver, la corrélation positive Bitcoin liquidité mondiale, la corrélation Bitcoin cycle économique américain, le Bitcoin Sharpe ratio, tout ça est favorable à ce que les $57,750 aient été le bottom du marché baissier cyclique. Et ce, tant que le marché tient 68 000, $70,000. Je viens de tout vous lister, et maintenant je les illustre, car je vous ai dit que j'allais jusqu'au bout, donc on va tout illustrer, avec donc notamment le Bitcoin ATH drawdown, où effectivement on voit que de bear market en bear market, le drawdown par rapport à l'ATH est de moins en moins élevé, mais c'est vrai qu'on pouvait s'attendre à quelque chose d'un peu plus profond. Il n'empêche, en appliquant l'analyse technique sur l'ATH drawdown, on avait une belle divergence haussière, comme ici en 2022, comme ici en 2018, et donc eh bien le drawdown aura été limité à 53%, on est quand même moins violent que les moins 76, moins 80, moins 83, moins 92% des anciens bear market. Alors, effectivement, il y avait la possibilité d'aller chercher les $50,000. $50,000 était vraiment... Le marché s'est arrêté à 57 700. 50 000 était le support parfait. De nombreux modèles on-chain disaient que c'était le bottom à venir. La chose, c'est que l'ancien bull run n'était pas allé chercher les cibles haussières habituelles, et notamment le fait qu'il y a la terminal price CVDD, terminal price CVDD, terminal price CVDD, terminal price CVDD, et comme on n'a pas fait terminal price, on a fait qu'effleurer le CVDD, et donc nous serions déjà en train de repartir. Honneur au modèle de la loi de puissance, Power Law, qui a topé le bottom comme 1000 fois dans le passé, et notamment, donc précisément, eh bien, le 1er juillet dernier, avec à nouveau le 14 août, un dernier test. Donc il y avait finalement donc ce modèle de la loi de puissance, qui est une approche mathématique du cours du Bitcoin. C'est une approche purement mathématique. Et donc ce modèle de la loi de puissance a à nouveau bien fonctionné. Modèle de la loi de puissance dont découle le quantile modèle. Le quantile modèle qui donc semble avoir attrapé le bottom du bear comme il l'a attrapé avec une relative précision en novembre-décembre 2022. Donc ça, ce sont des arguments effectivement qui sont favorables à la fin du bear market cyclique. Tout comme le Bitcoin ajusté de l'inflation qui est revenu le 1er juillet dernier pile poil sur le sommet de l'ancien cycle. Exactement comme fut la fin de l'ancien bear market, qui était revenu sur le sommet de l'ancien cycle, et avec, dans les deux cas de figure, une divergence haussière, une divergence haussière. Donc ça aussi, le Bitcoin ajusté de l'inflation, tout comme le Bitcoin cost of production, qui historiquement a toujours limité les bear markets, ce fut le cas ici en 2014, ce fut le cas en 2018, ce fut le cas en 2022, et donc a priori c'est à nouveau le cas, avec donc le marché qui s'accroche et qui rebondit sur le coût de production moyen par Bitcoin. Ça, c'est aussi un argumentaire favorable à un bear market qui serait terminé depuis donc le 1er juillet dernier, tout comme le Sharpe ratio, tout comme les ratios, à savoir que la divergence en USD, on la retrouve aussi très nettement sur le ratio Bitcoin S&P 500, et là, elle est magnifique, tout comme on retrouve un super signal bullish, d'ailleurs depuis mars dernier, sur le ratio Bitcoin-Gold. Reste que, eh bien, là, on est à peu près ici. Vous voyez, en termes de schéma, en termes de répétition cyclique, on est là. Hein. On est là. On est vraiment en phase initiale. Donc, tout ça est intéressant. Et bien sûr aussi, la corrélation positive entre Bitcoin, la liquidité, le momentum de la liquidité, qui dévoilait toujours un message bullish. Voilà, autant d'arguments. Et je termine enfin par la corrélation entre Bitcoin et le cycle macroéconomique, représenté ici par le PMI industriel US, édité par l'ISM, qui lui donc, eh bien, était sorti par l'eau d'une énorme phase d'accumulation. Et ici, superposé à Bitcoin, on voit qu'à chaque fois que ça sort par l'eau d'une phase d'accumulation et que le cycle industriel américain accélère, eh bien, ce fut les prémices d'une phase d'accélération du cours du BTC, comme ici en 2012, comme ici en 2016, comme ici en 2020, et donc, bah là, comme ça pourrait être donc le cas cette année 2026. Et le Sharpe ratio, qui s'est approché de la zone d'achat, pas tout à fait le niveau des moins 50, mais qui est venu à peu près faire le même bottom ici que 2015. Donc, le Sharpe ratio de Bitcoin, qui était vraiment en zone basse. Voilà. Là aussi, eh bien, c'est un argument qui peut justifier, donc, la fin du bear market cyclique. Donc, tous ces arguments techniques, c'est bien mignon. Et là, ne croyez pas que les choses sont faites pour autant, car il y a une invalidation. Cette invalidation, elle est sous vos yeux. Tout ce que je viens de vous dire tombe à l'eau. Tout ce que je viens de vous dire est neutralisé, pris à contre-pied, piégé, et c'est tout à fait possible. Il y a des exemples. Il y a complètement des exemples dans le passé. Prenez la fin de l'ancien bear market. On était là. Tout le monde pensait que depuis août, le bear market était fini. Et il y a eu la faillite d'FTX. Et boum, moins 30. Voilà. Ça, c'est un fait exceptionnel. Je vais vous en lister des risques exceptionnels. Donc, justement, tout ce que je viens de vous dire tombe complètement à l'eau en cas de rupture de la moyenne mobile à 200 jours, 70K. En cas de rupture de la Kijun Weekly du système Ishimoku, 70K. En cas de rupture de la moyenne mobile à 200 semaines, bref, tout ce que je viens de vous dire tombe complètement à l'eau. En cas de rupture avec fracas du support compris entre 68 000 et 70 000 dollars, et en cas de rupture avec fracas du support compris entre 68 000 et 70 000 dollars, le marché ira faire son drop à 50K. Le fameux niveau que beaucoup attendaient, en se basant donc sur des approches techniques et on-chain. L'invalidation technique du scénario haussier, rupture de la moyenne mobile à 200 jours, rupture de la Kijun Weekly. Et donc, quel décompte cyclique en cas d'invalidation technique totale? Eh bien donc, ici, il y a l'hypothèse numéro 1 du marché baissier cyclique terminé le 1er juillet, qui aurait duré 268 jours et dont le bottom aurait été fait 802 jours après l'ancien halving. Eh bien donc, ce lundi 7 septembre, dans les scénarios où en fait nous serions en bull trap et toujours en bear market, nous serions à 336 jours et 870 jours depuis l'ancien halving. Et donc, si on tend vers à peu près ce qu'ont fait les deux anciens bear market, ça dit toujours que le vrai bottom aura davantage lieu entre le 25 septembre et la fin du mois d'octobre. Donc, en cas de choc exceptionnel, de dernier choc exceptionnel, ça aurait lieu sur septembre-octobre, fin septembre-octobre, pour aller chercher donc, ces 50 000 dollars. Ce n'est pas le scénario majoritaire tant que Bitcoin est au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours et de la Kijun Weekly du système Ishimoku. Je continue, les risques de bull trap majeurs, le risque que cette hausse du Bitcoin depuis le 1er juillet, cette accélération depuis le 17 août, soit un piège et que le marché, après avoir piégé les bears, vienne piéger les longs pour finalement repartir plus tard. Bon. Comme ce fut par exemple le cas avec la faillite d'FTX. Ces risques sont multiples. Et donc, et c'est pour ça que je vous ai fait un top gain récemment avec montrant à quel point le mois de septembre était hyper chargé. Forcément, premier des risques, l'explosion haussière du prix du pétrole avec le détroit d'Hormuz complètement bloqué. Là, je vous fais pas l'analyse sur le prix du pétrole. Je vous ai déjà présenté ma cartographie. Je vous invite à reprendre mes derniers Fast and Forex. Mais vous savez que la situation reste compliquée. Donc là, forcément, prix du pétrole hors de contrôle, c'est bon, à un moment ou à un autre, voilà, ça va remettre la pression sur les actifs risqués en bourse. Deuxième point de blocage, la Fed de Kevin Warsh qui serait ultra restrictive, même si on sait qu'il a pas envie de monter les taux. Mais bon, voilà, une Fed qui le 16 septembre, d'ailleurs, au moment où j'enregistre cette vidéo, la probabilité implicite, la probabilité implicite que la Fed monte les taux le 16 septembre est supérieure à la probabilité d'un statu quo. Tout ça peut bien sûr changer, tout ça peut aller très vite, mais ça fait partie des risques majeurs de rentrée. Bien sûr, la forte hausse de l'inflation US sous-jacente, et je vous rappelle tous ces chiffres macroéconomiques qui vont tomber à la rentrée, et en particulier le PPI du 10 septembre, le CPI du 11 septembre, juste avant la décision de politique monétaire de la Fed du 16 septembre. Tout ça en cas de mauvais chiffres, surtout de hausse de l'inflation sous-jacente. L'inflation sous-jacente qui était sous contrôle, car jusqu'à présent, la hausse du prix du pétrole depuis février dernier n'a pas contaminé l'inflation profonde, comme j'ai pu vous le montrer un certain nombre de fois. Mais si cela devait changer, ne laissant pas le choix à la Fed, ça va. Alors, peut-être qu'au final, on va simplement faire mon épaule droite, d'épaule tête, épaule inversée, et qu'en fait, ça va juste faire ça, tenir 68, 70 et repartir. Mais si on revient là et que ça pète ça, si on enfonce 68 000, 70 000 dollars, c'est terminé. C'était un piège, c'était pas le bottom du bear, et on ira le faire à 50 000 dollars, et on fera le vrai bottom plutôt quelque part à l'automne. Je vais vous dire ensuite les seuils qu'il faut dépasser pour vraiment terminer sur ce débat. Ça arrive, c'est les parties d'après. Mais donc voilà, bien sûr, le très fort rebond du dollar américain, la poursuite de l'envolée des taux obligataires, un crack du S&P 500, tout ça peut bien sûr perturber le schéma du BTC. Mais surtout, notez bien ces deux dates. En fait, trois dates. Le 16 septembre, la Fed, vous l'avez compris. Mais surtout, notez bien, le mardi 15 septembre, le vote au Sénat US sur le Clarity Act. C'est un vote de déblocage, c'est un vote de fin de débat. C'est pas le vote final, mais peu importe. Il faut 60 voix. Or, il y a que 53 républicains. Il faut trouver 7 démocrates. C'est pas acquis. Si jamais le 15 septembre, les 60 voix ne sont pas réunies, ça va faire mal à Bitcoin. Et surtout, le 16 octobre, la décision finale des indices MSCI d'exclure l'action stratégie de ces indices. Et donc, si c'est le cas, il y aura des milliards de ventes d'actions stratégie, des milliards de dollars de ventes. Stratégie, premier détenteur de Bitcoin du monde. Et d'ailleurs, il faut faire l'analyse technique croisée de l'action stratégie et du cours du Bitcoin. À noter que le cours du Bitcoin, lui, a dépassé sa moyenne mobile à 200 jours. Ce n'est pas encore le cas de l'action stratégie au moment où j'enregistre cette vidéo. Alors oui, il y a des divergences haussières de long terme. Oui, l'action a perdu 85%, elle est en phase de bottomisation. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo en juillet vous disant que je mettais dans mes 7 je choisis cette stratégie dans mes 7 actions à fort potentiel. Elle a quand même rebondi de 80 à 120, c'est pas dégueu. Mais voilà, elle n'a pas encore donné les mêmes signaux bullish que Bitcoin. Il faut donc rester extrêmement prudent. Je vous rappelle que Strategy, c'est le premier détenteur de Bitcoin du monde. C'est 65 milliards de dollars de Bitcoin, 845 000 Bitcoins détenus au total pour 65 milliards. D'ailleurs, actuellement, eh bien, la valeur de Strategy en bourse est inférieure à la valeur de ses Bitcoins, puisque vous avez un ratio. Il a combien de ratio? C'est le NAV multiple. Le NAV multiple, il est à 0,70. Alors en soi, la valeur actuelle de l'action stratégie, ce n'est que 0,70 fois c'est Bitcoin détenu. Mais c'est parce que c'est justement tant il y a ce risque de MSCI. Et si le cours de l'action stratégie chute, ça va la mettre en difficulté pour lever davantage de fonds, etc., etc. Donc c'est compliqué. Mais ça, c'est majeur. Donc si vous voulez, d'un point de vue technique, il y a des pré-signaux intéressants de stabilisation de l'action stratégie, mais l'action stratégie n'a pas donné les mêmes signaux techniques aussi que Bitcoin. Par exemple, Strategy n'a pas franchi sa moyenne mobile à 200 jours. Strategy n'a pas franchi la Kijun Weekly du système Ishimoku. Donc attention, pour le moment, il y a une divergence entre les signaux techniques de fin de bear market donnés par le cours du Bitcoin qui n'existe pas encore sur l'action stratégie. Or, pour valider un ensemble complet de fin de bear market cyclique, les deux doivent avancer ensemble. Donc là, c'est vraiment un élément de prudence. Et notez bien donc cette date du 16 octobre, puisque donc le MSCI prendra sa décision finale. Le MSCI prendra sa décision finale. Et bien sûr, les élections de mi-mandat. Les élections de mi-mandat, hop, attendez, j'enlève ça, les élections de mi-mandat, j'enlève la petite vidéo voilà, que j'ai mis ici. Voilà, en cas de défaite totale, c'est-à-dire les Républicains perdent la Chambre des représentants et le Sénat le 3 novembre, et si en amont le Clarity Act n'a pas été voté, il n'y a aucune chance qu'il soit voté sur la fin du mandat de Trump, et ça, ce ne sera pas bon pour les cryptos. Donc, vous voyez, 16 septembre... 15 septembre, Carrette Yacht. 16 septembre, la Fed. 16 octobre, MSCI vis-à-vis de l'action stratégie. 3 novembre, les élections de mi-mandat US, la géopolitique, le pétrole, les taux. Bon, ça en fait des fondamentaux qui peuvent créer un dernier choc. Et alors, pour vraiment être... Il faut se mettre à l'abri en dépassant des seuils techniques. Les seuils techniques de mise à l'abri sont différents des signaux techniques de fin bear market. Les seuils du blanc. Moi, ma conviction reste toujours que 2027 sera grandiose pour le cours du Bitcoin et des altcoins. Pour valider définitivement la fin du bear market, il faut dépasser les résistances. Dépasser les résistances, je vais vous en montrer deux. D'abord, la résistance horizontale à 82 800 dollars, qui, si elle était dépassée, validerait cette espèce de pattern dont je fais l'hypothèse en épaule-tête, épaule inversée. On peut avoir une toute petite épaule droite comme une large, on ne sait pas. Elle se fera là-dedans, on ne sait pas encore. Mais dépasser 82 800, dépasser la moyenne mobile à 50 semaines et surtout sortir par le haut du Kumo Weekly, comme ce fut le cas ici en octobre 2023, comme ce fut le cas ici en 2019, comme ce fut le cas ici en 2016, sortir par le haut du Kumo Weekly du système Ishimoku, en gros, faire sauter cette résistance des 82-86, définitivement ferait passer. Il y aurait même plus de débat sur la fin du bear market, puisque ce serait les signaux techniques d'entrée dans une phase de bull run. Nous n'y sommes pas encore, et ça pour moi c'est quelque chose qui se mettra davantage en place, soit fin 2026, soit au début de l'année 2027. Encore une fois, je vous dis ça comme ça. Bien sûr, comme je vous disais que c'était une opportunité de rentrer, finalement ça a commencé le 17 août. Voilà, je vous mets au défi d'essayer d'être précis, au jour près, c'est quand même un mois ou un autre compliqué. Voilà, bon. En tout cas, donc, voilà un peu où nous sommes. Alors, justement, je reviens dans mes trucs, moi, donc, dépassement de la moyenne mobile à 50 semaines. Lorsque tous ces signaux seront donnés, Bitcoin va s'aligner sur son cycle. Là, voilà, c'est le principe de la répétition cyclique. Là, je vous donne l'horizon Bitcoin à horizon 2027, 2029, 2030. Alors, moi, je crois absolument pas aux 500 000 dollars. Mais si je devais donner une target pour 2028, 2029, ce serait autour des 500 000 dollars. Là, vous avez Bitcoin en rouge comparé à sa moyenne intercycle. Voilà. Donc, on voit vraiment que le vrai retournement des moyennes du min et du max, c'est début 2027. Et que là, on est en fait encore assez en dessous de la moyenne. On est encore assez largement en dessous de la moyenne. Il y a un autre graphique qui est assez sympathique si jamais on dépasse ces seuils, ces résistances plus tard dans l'année. C'est notamment le Bitcoin Cycle Repeat Chart, où vous projetez l'ancien cycle sur notre cycle actuel. D'ailleurs, c'est marrant, ça fait comme moi l'hypothèse de l'épaule tête épaule inversée. Bon, voilà. Donc, ça vous rappelle à quel point, ça vous montre à quel point, eh bien, cette année 2026, je vous le remonte, que le bottom ait été fait. Que le bottom ait été fait à 57 750 dollars ou qu'il en manque un tout dernier à 50 000, ça ne change pas l'énorme conviction forte que j'ai que 2027 et 2028 sera bullish pour le cours du Bitcoin et des altcoins. Là, j'ai pas traité le sujet des alts, mais j'aurai aussi 1000 graphiques à vous montrer sur les alts. J'aurai l'occasion d'en reparler. Mais voilà, je voulais donc déjà faire ce premier donc argumentaire sur le BTC. Eh bien, voilà. Alors, d'après vous, c'est quoi tout ça? Le bear est terminé, c'est impossible à dire, c'est un énorme bull trap, vous attendez toujours 50 000 dollars. Hâte de vous lire. Merci à toutes et à tous de votre attention.
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.